tous et bienvenue pour cette soirée placée sous le double thème de la connaissance de Cuba et celui de l'agro-écologie, voilà, ou l'agriculture écologique. Enfin, on en discutera tout au long de la soirée. France-Cuba-Poitou est une association relativement jeune qui existe depuis 1998, voilà, qui a été créé à l'initiative d'un groupe d'amis qui sont partis découvrir Cuba à cette époque-là et qui sont revenus en se disant il faut absolument qu'autour de nous, dans nos quartiers, dans nos régions, nous développions les liens et les connaissances autour de Cuba, notamment ce système socialiste hein, de la révolution cubaine, parce qu'on s'est aperçu rapidement, et l'actualité nous l'a démontré une fois de plus, que les médias ne sont pas toujours, j'allais dire, dans la vérité. Alors, si tant est qu'il y ait une vérité. Mais en tout cas, que bon nombre de médias n'hésitent pas à falsifier un certain nombre d'éléments, j'en ai ici, si vous en voulez, des exemples, il y en a des nombreux, autour de Cuba. Donc nous, il nous a semblé important de développer des cycles de conférences, de manifestations, sur des thèmes qui ont un lien avec Cuba, pour qu'on puisse essayer de comprendre eh bien, un système économique, politique, social, différent du nôtre, et pourquoi pas une voie, une alternative, qui nous montre qu'un autre monde est possible, en tout cas, pour avoir rencontré des responsables cubains, ils nous ont dit surtout, vous direz à vos amis, qu'on n'a pas la prétention d'être un exemple. On cherche, nous, à partir de notre histoire, à construire une société qui va à l'encontre, finalement, de celle qu'on nous a imposée avant la Révolution. Ils parcourent un chemin difficile, semé d'embûches. Hein, je n'en reviens pas sur toute l'histoire de Cuba. Mais en tout cas, ils persévèrent. Et la future équipe qui va arriver dès l'année prochaine à la direction du pays, qui est la nouvelle génération, après celle qui a connu, qui a fait la révolution, va s'atteler à une tâche importante de construction d'un modèle de société plus juste, plus durable. Et cette question de l'écologie, du développement durable, est depuis pratiquement depuis 30 ans au cœur des réflexions de Cuba, pour plusieurs raisons. Je n'en parle pas puisque c'est l'objet de la conférence. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Suzy, qui va vous présenter la soirée, et nos deux intervenants. Suzy, c'est à toi.
Merci. Donc, pourquoi cette conférence débat, après tout, sur l'agrobiologie à Cuba, précisément? Eh bien, c'est parce que, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais à Cuba, il y a, on peut dire, une nouvelle révolution qui s'est développée dans le domaine de l'agriculture depuis plus de 20 ans. C'est déjà lancé dès le début des années 90, et en employant les méthodes de l'agriculture bio, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais chimiques. Cette nouvelle agriculture, aujourd'hui, concerne plus de 400 000 coopératives agricoles, si je suis bien renseignée, mais Henri sera là pour nous apporter plus de précisions, et qui leur production avoisine 1,5 million de tonnes de légumes ou autres produits de maraîchage. Ces coopératives se situent sur des terres qui sont généralement attribuées gratuitement par l'État en usufruit à des petits cultivateurs, qui sont souvent des nouveaux cultivateurs. Et ça représente une surface importante de Cuba, puisque si on essaye d'évaluer par rapport à la surface agricole utile, c'est presque le quart de cette surface qui est cultivée de cette façon. Alors au départ, vous allez voir ça dans le film qui va suivre, ce choix a été fait pour faire face au blocus des États-Unis. Ce blocus est d'ailleurs renforcé au moment de l'abandon de Cuba, on peut dire, par l'Union soviétique au début des années 90. Et à ce moment-là, la situation était très difficile à Cuba, pour l'alimentation en particulier. Et donc, dans ce contexte de crise économique des années 90, c'est là où cette nouvelle agriculture a commencé à se développer. Actuellement, c'est en pleine croissance. Alors, de nombreux intérêts, c'est que d'abord, ça génère des emplois. Ensuite, protection de l'environnement, qui n'était pas forcément protégé avant. Et bien sûr, ça améliore la sécurité alimentaire de l'île, ce qui est le but principal de cette forme de culture. Alors, pour le déroulement de la soirée, nous allons d'abord passer le film qui est annoncé, donc « Semences, les racines du Nouveau Monde », le premier volet, qui va durer environ 20 minutes. C'est sous-titré. C'est a été tourné à Cuba, ce sont des reportages. Ensuite, vous allez entendre les exposés donc, de nos deux conférenciers, alors nous, que nous remercions bien sûr Henri Sierra qui s'est déplacé de Montpellier et Jean-Louis Durand qui vient de Lusignan. On vous les représentera un petit peu plus tout à l'heure. Oui, Lusignan, c'est plus près que Montpellier, mais bon. Et nous remercions aussi, bien sûr, l'Espace Mendès France qui nous a accueillis ici et a permis donc la présentation de ce thème dans cette salle. Alors, bien sûr, ensuite, débat avec le public. Nous allons essayer de donner la plus grande place au débat avec toutes les questions que vous allez pouvoir poser. Après donc les interventions introductives de Jean-Louis Durand et d'Henri Sierra. Alors je crois que maintenant je vais lancer le film. Alors là on va peut-être baisser l'éclairage et on va y aller. J'espère qu'il vous a intéressé. Vous avez appris un certain nombre de choses. Alors maintenant, on va passer aux exposés. Donc, tout d'abord de Jean-Louis Durand, qui est chargé de recherche en bioclimatologie à l'INRA de Lusignan, directeur de l'unité de recherche prairies et plantes fourragères. Et il va nous présenter donc, en gros, les principes généraux de l'agroécologie. Alors Jean-Louis Durand.
Henri Sierra être plus précis sur les conditions réelles de l'expérience cubaine actuelle, qui malgré tout, rien que le film, je pense, donne une idée, est porteuse de questionnements et d'idées importantes pour toutes les agricultures du monde. On va commencer sans doute par celle des agricultures périurbaines dans le sud. Mais qui a valeur de cas en vrai très riche pour tout le monde. L'INRA est engagé dans une démarche générale qui est de tenter de trouver des connaissances objectives, scientifiques, qui permettent à l'agriculture de prendre un cap avec deux objectifs, un objectif en fait, j'entends l'air bien, c'est d'alimenter les populations sur le long terme. Peut-être pas tant l'INRA que le CIRA, mais enfin, globalement on peut dire aujourd'hui que les économistes s'entendent pour accepter l'idée que la population mondiale aurait de quoi se nourrir largement, largement aujourd'hui. et que donc c'est pas du tout indifférent de constater qu'il y a quand même les statistiques sont très, très difficiles à faire, entre 700 et 800 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger, calories quasiment, à peu près autant qui mangent, on dirait trop en fait, pas bien, sans compter de carences en différents éléments, oligo-éléments, vitamines. Et que cette carence n'est pas due à un manque physique de production. C'est une autre chose pour les 2 milliards qui sont prévus en 2050. Là, il y a quand même une question de production globale, physique. Et par conséquent, il y a une question de la production totale qui est posée. Et le nivellement de la production nord-sud ne suffira pas à ça. Donc il y a une question technique qui est posée à terme, et ce n'est pas dans 200 ans, hein, c'est tout de suite si on parle de progrès agronomique. Ça veut dire que la recherche actuelle, il faut qu'elle travaille avec comme une manière d'assurer cette production agricole, enfin du moins, c'est à ça qu'on travaille. La finalité, bien sûr, de la recherche agronomique publique, c'est l'action. Donc je ne dirai pas plus là-dessus, mais il faut avoir ça en tête. Parce que ça veut dire que les niveaux de production, les rendements, c'est une question. C'est une question importante, on ne peut pas la balayer de la main. Donc quand on compare les systèmes, etc. L'autre élément fondamental, c'est que les conditions actuelles de production dans les zones où justement la question, les hauts rendements sont observés ne sont pas soutenables. Et indépendamment du fait que Cuba a été forcé de réduire énormément les intrants pour des causes géopolitiques, même strictement politiques, on peut dire, il n'empêche qu'on peut considérer que c'est probablement une bonne affaire d'avoir été obligé de résoudre le problème en réduisant ses intrants, parce que là où on n'a pas fait attention, là où jamais on s'est préoccupé de l'impact des intrants sur l'environnement, on s'aperçoit aujourd'hui, grâce à des dispositifs d'observation qui ont été mis en place dans les années 70 par une grande parenthèse, notamment quand on parle des cibles de nitrate, hein, c'est un réseau de mesures qui a été mis en place il y a 40 ans. Et plus de 40 ans, presque 5 ans. Bon, les choses sont avérées, on a de la pollution. C'est également avéré que le bilan énergétique fait que la production d'azote en particulier, mais aussi l'utilisation forte d'engrais azotés, produit des gaz à effet de serre en quantité telle que l'agriculture, au lieu par la photosynthèse, dont c'est la base, de contribuer à la réduction des problèmes de changement climatique contribue au changement climatique. Ce qui est en fait, à peu près au quart, sans compter la production d'engrais. Donc, du coup, ces circonstances-là font qu'actuellement, on ne sait pas obtenir de fortes productions avec un faible impact sur l'environnement, globalement. Et l'agroécologie vise à mettre en place des techniques agricoles, des systèmes de production qui résolvent les deux problèmes à la fois. Nier un des deux problèmes, c'est aller dans le mur. C'est à 30 ans. Il faut tenir les deux. Quand on dit les deux, ce ne sont que deux problèmes, parce qu'il y a aussi les problèmes sociaux, les problèmes culturels qui sont liés à la production agricole, et puis d'autres services, d'autres impacts de l'agriculture sur l'environnement. On parlait, surtout de pollution, ce qu'on appelle les cycles géochimiques, cycles des éléments qui répondent aux lois de la thermodynamique et de la physique, de la chimie, mais il y a aussi les lois de la biologie, c'est l'impact sur la biodiversité. Alors, il y a plusieurs théories sur la raison pour laquelle il faut maintenir la biodiversité. Il y a des théories utilitaristes qui disent que la biodiversité, c'est très utile pour la production. Et puis, il y a une vision, je dirais, instinctive qui dit que plus il y a de biodiversité, mieux ça vaut, en principe. Et c'est souvent une condition largement suffisante pour la promouvoir. Donc, ça, ça fait partie des problèmes. Donc l'agroécologie, c'est ça, c'est essayer. Alors, il y en a plusieurs options. L'INRA a retenu une option très technique. Bioproduction, biodiversité, environnement. Il y a des versions de ça, notamment au niveau international, où on intègre beaucoup plus ça comme un mouvement social. Mouvement social intégrant, et d'ailleurs, on se rapproche beaucoup de ce qu'on a vu là. Très frappant, tout à fait illustratif du fait qu'on entre dans l'agroécologie par l'organisation sociale. On pense ce qu'on veut, mais c'est comme ça que ça commence. Comment s'organisent les gens pour se nourrir? Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait au hasard que ça tombe sur Cuba, parce que quand on regarde, vous savez, que sur l'azote, par exemple, sur la fertilité et l'agriculture, les premiers écrits qui ont montré, en même temps qu'on trouvait le rôle de l'azote dans la production végétale des plantes, c'est important, on découvrait qu'on était en train d'appauvrir complètement, de stériliser les sols d'Angleterre et d'ailleurs, avec l'urbanisation des grandes cités, notamment Londres. C'est-à-dire que l'agriculture nourrissait un prolétariat qui s'accumulait dans les villes, et l'alimentation produisait énormément de déchets qui se terminaient dans la Tamise. Et Liebig, le grand chimiste agronome Gustav Liebig, disait c'est de la folie furieuse, on va dans le mur, ça ne veut pas continuer de concentrer comme ça l'azote dans le système. Et il prédisait des circonstances assez graves, on a frôlé ça jusqu'au jour où Auerbach a trouvé un moyen de faire de l'ammonitrate et de remplacer ce qui partait des sols de Grande-Bretagne. Il y a eu toute une période où il y a eu véritablement une crise et il a fallu aller chercher l'azote ailleurs, sous les guano, dans les îles, etc. Et un des premiers grands hommes politiques de la fin du dernier siècle à avoir observé ça et avoir dit que c'était une rupture majeure dans l'humanité, c'est Karl Marx. Donc, maintenant qu'il a trouvé ça à Cuba, qu'il fallait ramener la production et la consommation dans un cycle plus vertueux. Mais c'est une des parties de l'agroécologie, c'est qu'on parle de fumier à un moment donné, il y a un gros problème de retour des éléments fertilisants dans les champs cultivés en végétaux. L'agriculture biologique, c'est très souvent associé à de l'élevage, ce qui pose quand même d'autres questions en termes d'utilisation des produits d'élevage et de production de gaz à effet de serre, entre parenthèses. Une autre solution, c'est de récupérer les effluents des villes, où habite la moitié de l'humanité aujourd'hui, et ça sera plus, enfin, sauf révolution d'un tout autre ordre, en 2050, c'est un hyperconcentrateur d'éléments, il va falloir récupérer les effluents pour les recycler, si on veut retrouver un cycle qui se ferme. C'est un des aspects. Et je terminerai sur deux choses. Une des choses que l'INRA explique aujourd'hui, enfin, ses théories, c'est que le levier principal pour l'agroécologie, c'est la diversification des cultures. Et en ce sens, c'est quasiment jusqu'à l'extrême, on en a une illustration là, mais y compris dans les grandes plaines céréalières, la réduction des cultures en maïs et colza est une des sources du problème. Et des messages et des résultats actuellement de l'analyse de l'INRA, c'est qu'il faut augmenter la diversité. Par exemple, en mettant des prairies, par exemple, en mettant des légumineuses, ce qui permet à la fois de modifier les cycles géochimiques, carbone, azote, eau, etc., et aussi de contrôler les éléments vivants, que ce soit les adventices, les plantes, ce qu'on appelait les mauvaises herbes, les insectes, etc. Donc cette diversité, elle impose une maîtrise des semences par les agriculteurs. On a actuellement un enjeu tout à fait considérable qui est celui du brevetage du vivant. Je pense que parler d'agroécologie sans régler la question définitivement des brevets sur les gènes et l'information qui tiennent, c'est une vue de l'esprit. Il faut absolument que les populations s'organisent pour casser ça, elles se sont fait avoir les grandes largeurs avec les accords de Rio, de Nagoya et le traité international des sciences. Pour elles, en gros, c'est ça. C'est une entourloupe organisée par les compagnies pharmaceutiques. Ça a presque failli passer à la dernière loi sur l'université. La France a presque failli casser cette option. Ça a arrêté au dernier moment. Il y a un amendement qui s'est fait battre par la majorité, malheureusement, sur le fil. Pensez-y en mai prochain. La dernière chose, c'est que l'agroécologie, c'est la diversité, le recyclage, des cycles vertueux, une association à produire, ça ne fonctionne pas. Je ne parle pas du fait qu'il n'y ait que 4% de la surface en France ou 4 ou 5% en bio. C'est embêtant, ça serait bien, mais ce n'est pas trop le sujet. Le problème, c'est que 96% à 95% des surfaces fonctionnent avec des agriculteurs dont une grande partie voudrait bien faire autrement. Mais pour des tas de raisons, il y a des blocages. Donc, question importante, mais qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Donc, bonjour, je vais terminer là, parce que je pense que je n'ai pas trop parlé, mais voilà un peu quelques éléments que je voulais amener. Avec, alors, vous aviez parlé tout à l'heure il y aura un débat dans la salle avec des questions. C'est un débat, je suis là pour un forum. Éventuellement, si je sais, je répondrai, mais. Forcément, beaucoup de réponses aux questions légitimes qui pourraient se poser après ce film et peut-être l'intervention.
Bon, eh bien, merci Jean-Louis Durand pour cet exposé. Je suppose que vous avez déjà en préparation des questions relatives à ce qu'il vient de vous dire. Alors, avant de passer au débat, nous allons maintenant entendre Henri Sierra, qui est secrétaire général du comité de l'Hérault de Cuba Coopération France. Et il nous fera part de son expérience de coopération solidaire avec Cuba, de sa pratique, donc, des échanges dans le domaine de l'agriculture organique ou biologique. Alors, Henri Sierra.
Oui, mais je crois qu'il est là. Oui, il est toujours presque là. Oui, d'abord, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité, surtout d'avoir invité mon association. Ça prouve qu'on travaille... très bien, toutes les associations ensemble pour des mêmes objectifs. Voilà, alors mon intervention, je l'ai fait en deux temps, si vous voulez. Un premier temps, je vais vous parler de la généralité que vous avez vue, vous allez entendre des choses que vous avez déjà vues, mais je pensais qu'il était nécessaire d'y revenir un petit peu dessus. Et la deuxième, c'est l'expérience que nous avons, enfin le programme de coopération que nous développons dans l'Hérault avec les agriculteurs cubains et héraultais. Voilà, alors tout d'abord, permettez-moi d'énumérer quelques points de repères qui me semblent essentiels de toujours ne pas perdre de vue. À Cuba, d'abord, il y a un savoir-faire paysan qui est très ancien, qui s'est accumulé au fil des temps, donc il faut savoir. Il y a une différence de situation assez importante entre les zones urbaines et les autres zones de l'île, où traditionnellement, les Cubains ont toujours cultivé des bouts de jardin chez eux, ainsi de suite, avec un peu d'élevage, voilà, le tout mélangé. Élevage, c'est souvent poule et au moins un cochon pour pouvoir fêter la fin d'année. Il ne faut pas oublier le blocus des États-Unis, qui est toujours en vigueur, et qui a des conséquences très dures sur toutes les importations des produits et l'approvisionnement en pétrole. Quatrième point, c'est après la Révolution, la présence soviétique et l'organisation du commerce et de la production dans le cadre du Comecon. C'est-à-dire que le Comecon, les pays qui étaient au Comecon produisaient tel produit, et c'est les autres qui leur amenaient les produits. Donc Cuba fabriquait du sucre. La Yougoslavie fabriquait du lait. Donc les Cubains recevaient du lait de Yougoslavie et fournissaient le sucre à tout le Comecon et bien au-delà. Ensuite, le dernier point, c'est l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ça a été dit, mais avec pour conséquence une crise très grave économique. À Cuba, le PIB a chuté de 35% en un an. le commerce extérieur de 75%, le pouvoir d'achat de 52%. Imaginez-vous si ça se produisait aujourd'hui chez nous, ici. Donc à ce moment-là, les Cubains manquent de tout, la population souffre. C'est ce qu'on appelle la période spéciale, enfin que les Cubains appellent la période spéciale. Il faut savoir que dès 1970, pour des raisons de prudence nationale, le gouvernement cubain avait recherché des solutions en cas de coupure totale des importations pétrolières. En 1987, soit 4 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique, les expérimentations avaient commencé sur les possibilités d'une agriculture dans les villes. Face aux difficultés de la période spéciale, donc, que j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a décidé un programme de développement de ce qu'ils vont appeler les organoponiques, ou en espagnol, los organoponicos. Deux objectifs, augmenter la production de produits frais locaux pour nourrir la population. Deuxièmement, faire face au manque d'importation, plus particulièrement, du pétrole et des intrants, c'est-à-dire produits chimiques, engrais, pesticides, ainsi de suite, par une réduction des transports, une réduction de l'utilisation des machines agricoles qui consommaient beaucoup de pétrole, et développer une agriculture plutôt traditionnelle qu'on appellerait aujourd'hui en France paysanne. Ce programme a été mis en place, et ça c'est très significatif, non pas par le ministère de l'Agriculture, mais par le ministère de la Défense. Vous voyez, prudence nationale. Avec comme relais, bien entendu, les comités de défense de la Révolution. Ce programme comprenait l'attribution de terres le plus près possible des cœurs des villes, afin de limiter les transports, les lopins de terre pas très grands, afin de faciliter le travail sans recours aux machines agricoles, mais également favoriser les cultures dans les jardins privés ou encore dans les administrations telles que les écoles, d'ailleurs, ou certains ministères. Une seule obligation était faite, c'était cultiver de manière organique. C'est la seule obligation qui était faite. Ce programme était accompagné de distribution de semences, de distribution de petits outillages et de mise en place de systèmes d'irrigation par des forages ou des systèmes de récupération d'eau de pluie. Les municipalités de Cuba, à cette époque-là, ont été obligées par l'État, mais c'était volontariste, mais voilà, ont été obligées de réserver des terres pour en faire la redistribution sous la responsabilité des comités de défense de la Révolution. Selon certains chiffres que j'ai eus, il semblerait que les financements de ce programme étaient plus élevés que celui de l'éducation, et il me semble que quand on connaît le niveau d'éducation de Cuba, on voit ce que ça représente. La production des jardins privés ou patio était toujours destinée à la consommation personnelle. Vous l'avez vu dans le film. Hein. Les organoponicos, qui sont des fermes plus grandes, ont été organisées sous forme de coopératives, soit privées, soit d'État. Vous donnerez des détails un petit peu après. La production des coopératives d'État a été destinée à l'État pour couvrir l'ensemble des besoins sociaux, la librette, vous savez, le carnet de rationnement. Et quand on parle de besoins sociaux, c'était l'armée, les hôpitaux, les personnes âgées, les écoles. Voilà, c'est ça quand on parle de services sociaux à Cuba. La production des coopératives privées a été destinée pour une partie à l'État et pour l'autre pour la vente directe. Le pourcentage ou le ratio de répartition entre ces deux manières de vente était dépendait des aides de l'État, c'est-à-dire en fonction du niveau d'aide qu'ils avaient reçu. Mais voilà, après il y a un calcul, c'est toujours le cas d'ailleurs. Tout ce système, c'est ce qui a été appelé la Révolution verte. En fait, la Révolution verte, c'est ça. Tous les observateurs étrangers, ça a été noté, disent aujourd'hui, ils applaudissent tous sur ce programme, ils disent que c'est un véritable succès unique. Si l'on prend l'un des sous-programmes qui connaît un grand succès, c'est-à-dire celui des légumes et des herbes, vous avez vu là, des herbes fraîches. la production s'est vue multipliée par 1000 entre 1994 et 2005. De 4000 tonnes, c'est passé à 4 200 000 tonnes. Bien sûr, il faut tenir compte que ce type d'augmentation a été lié à la multiplication des superficies mises en culture. Mais si en même temps on prend le rendement de ces mêmes terres, on s'aperçoit que sur la même période, ils sont passés le rendement. Donc, hein, il est passé de 1,5 kg au mètre carré à l'hectare à 25,8 kg au mètre carré à l'hectare. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez énorme. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine, donc toute l'agriculture urbaine, est organisée avec une direction générale qui s'appelle le GNAU, c'est-à-dire le Groupe National d'Agriculture Urbaine, complété par des organisations provinciales, parce que tout cela ne se fait pas comme ça dans l'air du temps, hein, une par province et par des organisations municipales. Ce programme est décliné en 28 sous-programmes, 12 pour la culture, 7 pour l'élevage, 9 dans les domaines du soutien tels que le fumier biologique, les semences, l'irrigation, le drainage, le marketing et l'éducation technique. On estime que le nombre d'agriculteurs a été multiplié par 10 pendant cette période et que plus de 35 000 emplois de techniciens et chercheurs ont été créés. Nouveaux emplois, donc, techniciens et chercheurs, bien sûr, dans l'agriculture, hein, l'agriculture urbaine. On estime qu'au moins 400 000 agriculteurs urbains aujourd'hui cultivent, il y a quelques années, parce que les chiffres, je ne les ai pas aujourd'hui hein, cultivent 70 000 hectares de terre. Au début de la période spéciale, Cuba possédait une population qui jouissait d'un haut niveau d'éducation, mais de très peu de connaissances en matière d'agriculture biologique. Cependant, la population urbaine, cubaine d'ailleurs, c'est assez fantastique chez ce peuple, a une capacité d'apprendre rapidement qui est incroyable. Incroyable. Au même moment, de nombreux scientifiques avaient conduit des recherches dans ce domaine et beaucoup de paysans possédaient des connaissances agricoles traditionnelles qui pouvaient être partagées. C'est cette combinaison certainement unique d'enseignants qualifiés, de savoir-faire paysan et d'étudiants enseignables a permis une rapide dispersion du savoir-faire, surtout lorsque ce savoir-faire est associé à des efforts d'extension participative sérieux, organisés et concertés, menés par des instituts de recherche, des universités et des organisations agricoles. Donc c'est un peu ce que j'ai dit avant, mais je vous le détaille. La formation à l'agriculture urbaine est bien plus qu'un simple transfert de paquets technologiques. Son mot d'ordre, le mot d'ordre qu'ils utilisent, c'est le suivant. Produisez en apprenant, enseignez en produisant et apprenez en enseignant. Les techniciens scientifiques et ingénieurs agricoles formés de manière officielle dans les universités apportent également la pierre à l'édifice. Enfin, les écoles primaires et secondaires enseignent et préparent la nouvelle génération des agronomes urbains, et y compris à partir des petits espaces dans lesquels ils cultivent, ainsi de suite. Donc, autre chose dont on ne parle pas souvent, mais il y a un programme à Cuba qui s'appelle, qui a été généralisé dans d'autres pays d'Amérique du Sud d'ailleurs, qui s'appelle, dans les Caraïbes, le programme Campesino a Campesino. C'est-à-dire, c'est la transmission des savoir-faire entre paysans. Ils voient, ils regardent, ils apprennent. C'est certainement d'ailleurs une des clés de la réussite, hein, une des clés de la réussite de ce programme. Sans oublier le travail conjoint entre chercheurs et agriculteurs. C'est assez extraordinaire à Cuba, qui a mis au point tout un ensemble de dispositifs, et je vous en cite un qui, à mon avis, est remarquable, parce qu'il existe nulle part ailleurs. Ça s'appelle les CREE, C-R-E-E, c'est-à-dire les centres de reproduction des entomophages et entomopathogènes. Alors, pour faire simple, les entomophages, ce sont les insectes qui aide au développement d'une culture en mangeant les insectes prédateurs, nuisibles. Et les entomophages sont des bactéries ou substances qui vivent dans le sol et aident également au développement des cultures. Il faut ajouter à cela la créativité et l'ingéniosité des cubains. Là, je pourrais vous donner quelques exemples qui, à partir de matériaux de récupération, créent des outils, des systèmes simples pour travailler leur ferme. Et il y a un institut qui s'appelle l'IANEC, à Cuba, avec ses chercheurs qui parcourent le pays pour voir les systèmes qu'inventent les agriculteurs dans leurs petites fermes, afin de pouvoir en produire des outils à une échelle plus grande. Le seul problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui, ils en ont des tâches, vous l'avez vu, c'est le problème des matières premières. Alors, on parle souvent à Cuba des coopératives. Je pensais que là, il était nécessaire que je vous apporte un petit éclairage. Actuellement, l'agriculture cubaine est structurée à partir de trois formes de coopératives. Il y a les UBPC, alors excusez-moi, je vais vous donner ici en même temps la traduction, les unités basiques de production coopérative. Elles sont constituées de travailleurs d'entreprises d'État, les terres sont en usufruit, les semences, outillages, intrants sont achetés, donc fournis par l'État, et la production est vendue à l'État. Et ces UBPC sont classifiés en deux grandes catégories, celles qui travaillent sur la canne à sucre et les autres. Les CPA, ce sont les coopératives de production agropécuaire. C'est une forme collective de propriété sociale qui se crée à partir de la décision des agriculteurs d'unir leurs terres ainsi que les moyens fondamentaux de production. C'est-à-dire que c'est des agriculteurs qui avaient la terre, les unissent. Et voilà. Les CCS, coopératives de crédit et services. Alors là, les terres et les équipements, la production restent à la propriété de chacun. Mais c'est une organisation collective qui décide ce qui sera mis en commun, donc avec un conseil d'administration et ainsi de suite. Par exemple, l'irrigation des services ou d'autres mesures telles que le crédit. Il faut savoir qu'à côté de ces formes coopératives, il y a aussi des petits agriculteurs privés. On ne le dit pas, mais il y a aussi ça. Et qui ont une production, pas très très grande, mais elle existe. Alors, sur les pratiques agricoles, les fermes agricoles cubaines pratiquent toute la polyculture, accompagnée de petits élevages tels que les volailles, très diverses et variées, cochons, chèvres, et je parlais de chèvres, voilà. Excepté les grandes fermes d'État, ils pratiquent tous l'agriculture organique. Je dis les grandes fermes d'État parce que, par exemple, à la canne à sucre, ils utilisent des intrants chimiques. Le tabac utilise des intrants chimiques. C'est-à-dire, donc, ils pratiquent l'agriculture organique, c'est-à-dire sans pesticides, sans produits chimiques. Les organoponicaux dans les villes sont le plus souvent installés sur des terrains peu fertiles. Vous avez vu ce que disait je crois que c'était une dame qui parlait. Ils sont organisés donc en plates-bandes, cerclées de bordures, qu'ils remplissent de compost, des fois avec des mélanges de terre, mais enfin, souvent c'est du compost, et dans lequel ils s'aident. Le plus souvent, ces plates-bandes sont protégées du soleil par des filets en maille de couleur noire, vous avez pu en avoir quelques-uns, qui laisse passer la lumière et l'air, mais qui coupe les rayons du soleil pour ne pas brûler les plantes. Et ils peignent les poteaux, qui supportent ces filets, en vert ou en jaune, parce que ce sont des couleurs qui attirent les insectes, et donc ils les enduisent dessus de graisse. Donc, les insectes arrivent, ils se collent dans la graisse, et voilà, donc c'est un piège. Ce sont des pièges à insectes comme ça qui forment à partir de choses toutes simples. Il y a aussi dessert, notamment pour la réalisation des plants, vous l'avez vu là. Les composts sont le plus souvent, bon, bien sûr, ce sont des résidus, des déchets végétaux, ouais, des cultures. Mais la méthode la plus utilisée, c'est quand même la lombriculture. Mais quand on dit ça, pour l'avoir vu, c'est tous les agriculteurs font pratiquer la lombriculture. Tous, sans exception. Y compris, il y en a certains qui récupèrent les, je crois que ça s'appelle l'humus de lombri, hein, si je ne me trompe pas, c'est le jus qui coule. Voilà. Excusez-moi, c'est comme ça. Ensuite, ils ont toute une batterie de pratiques agricoles qui sont qu'on aurait besoin d'adapter ici. Les fermes possèdent toutes des périmétrales, c'est-à-dire sur lesquelles les insectes vont pouvoir vivre. Hein. Ils ont essayé, y compris des haies qui coupent leur champ, mais là aussi, c'est pas fait pour rien, hein. C'est pour que les insectes soient présents. Voilà, donc ils mélangent les espèces à l'intérieur, y compris avec des espèces sur lesquelles ils puissent faire de la récolte, soit de petits fruits ou des trucs comme ça. Ils font aussi de la même manière ce qu'ils appellent les corridors écologiques, c'est-à-dire qu'ils partagent, ils mettent une grappe de haie comme une espèce de haie, si vous voulez, voilà, qui en fait va permettre aux insectes de pouvoir traverser la ferme sans ennui, voilà, et puis aller se répandre un petit peu partout. Donc ça, ce sont les corridors. Donc ce sont des nichoirs, ainsi de suite. Ils maintiennent les espaces fleuris dans les fermes, vous l'avez vu, là. Il y a des fleurs à peu près partout. Ben, c'est pas, ils aiment les fleurs, mais c'est pas pour ça qu'ils le font. En fait, c'est pour les insectes, la biodiversité, donc ils en mettent un petit peu de partout. Ils laissent même des espaces naturels, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, parce qu'ils considèrent que, on dit un mot, on utilise le terme de mauvaise herbe, mais qu'il ne faudrait pas l'utiliser, parce que quand il est chez ces jachères, il y a de la biodiversité d'insectes, et ainsi de suite, et qui viennent dessus. Donc ils la contrôlent, ils ne veulent pas qu'elle s'étende, ça c'est certain, mais ils s'en servent également dans leur système de culture. Ils mettent des pièges pour capturer les ravageurs. Ils utilisent également des bois, alors c'est assez surprenant, ça, ils utilisent des boîtes de capture pour capturer les insectes, les auxiliaires, par exemple la coccinelle, vous voyez, bon. Et pour les transporter à un autre endroit de la ferme qui en aura besoin. Donc là, ils ont inventé, alors quand je vous dis des boîtes de capture, imaginez-vous une boîte en carton, c'est une boîte en carton, avec deux trous, donc il n'y a pas le fond, deux trous avec des flacons transparents, d'accord, qu'ils mettent comme ça, et ils posent ça sur un endroit où ils ont vu qu'il y avait beaucoup de coccinelles, par exemple, tac. Ils le laissent à peu près 30 minutes, donc comme c'est sombre, la coccinelle le rentre dans les tubes pour voir la lumière, ils ramassent les tubes, ils ont les coccinelles à l'intérieur. Voilà, quand je parle de méthode simple, c'est des choses qui sont assez surprenantes pour nous. Après, bien sûr, il y a toute la pratique sur les rotations de culture, les associations de culture comme répulsifs, c'est-à-dire qu'ils associent des cultures, parce que des cultures sont répulsives par rapport à des insectes, à des ravageurs, de par leur composition, je dirais, chimique, mais également, et là, ça a été une grande découverte pour nous, ils associent des plantes pour leur couleur, c'est-à-dire qu'ils associent des plantes, des salades un peu rouges avec des salades un peu vertes, avec des salades un peu jaunes, ainsi de suite, dans une même parcelle, parce que quand l'insecte arrive, il ne reconnaît pas les couleurs de la plante qu'il va attaquer, donc il attaque. C'est bon, c'est répulsif. Bon, les sols, ils ne font pas le labour à l'inverse de la terre, hein, ils font que le sous-solage, hein. C'est-à-dire qu'ils aèrent le sol en bas. L'irrigation, ils pratiquent le goutte à goutte. pour économiser l'eau, mais comme ils n'ont pas, de pompe, de trucs, donc ils ont inventé tout un ensemble de systèmes, appelons on va chez un agriculteur l'autre, ce sont des systèmes différents, mais tous mécaniques, avec, bon, voilà, ils ont inventé des trucs pour réguler leur arrosage tout seul, sans électricité, sans panneaux solaires, sans rien du tout, mais ça fonctionne. Alors, dans certains endroits, ils utilisent aussi ce qu'on appelle les micro-organismes efficaces. Alors, les micro-organismes efficaces, en fait, ça repose sur le principe que le sol, un terrain qui est vierge, c'est-à-dire par exemple une forêt, hein, où il n'y a pas eu de la surface du sol est remplie de micro-organismes. Donc, ils ramassent ces micro-organismes, ils les mettent dans des fûtes avec un mélange à base de molasse, de sucre. Enfin, bon, voilà un mélange, ils ferment tout ça, ils le laissent 42 jours, donc c'est ce qu'on appelle un mélange lacto-fermenté. Et à partir de là, ils ont un produit qui est voilà, des micro-organismes efficaces. Et ils pulvérisent ça sur leurs plantes, mais sans pression, donc il ne faut pas qu'il y ait de pression pour ne pas détruire les micro-organismes efficaces. Et là, on a été surpris dans une ferme, au cours de tout notre projet, ils projetaient ces micro-organismes à 10 mètres de hauteur, sans pression, donc pour ne pas qu'ils meurent. Donc on a été surpris, ils nous ont montré la machine qu'ils avaient inventée. C'est une plateforme. Voilà, une plateforme agricole hein, sur laquelle ils avaient monté une structure en un gros bidon, un gros réservoir de, je ne sais pas, 200 litres ou 250 litres qui remplissait avec de l'eau et des micro-organismes, là, ils diluaient tout ça et ça descendait par gravitation par un tube. Ce tube était mis à l'horizontale avec des trous et derrière, il y avait un très gros ventilateur qui, par le vent, vous voyez, c'est ces micro-organismes se promenaient à 10 mètres de hauteur. Quoi. Ils projetaient ça sur leur bananier. Et donc, avec des résultats, on n'a pas pu avoir des résultats scientifiques. Hein. C'est bien dommage, mais qui, eux, les satisfont quand même. Alors, j'en termine parce que je suis un peu là.
C'est vrai, pour quelques minutes.
Alors, ce que je pourrais vous dire quand même là-dessus, c'est que nous pouvons dire que le programme de développement de l'agriculture urbaine à Cuba a été fait non par choix, ça a été dit, mais par nécessité. Et que c'est un très grand succès. Outre le fait qu'il a pu apporter au peuple cubain de la nourriture vivrière dans les moments les plus difficiles, il a été aussi créateur du développement économique interne, créateur de développement et de techniques agricoles, créateur d'emplois, créateur de politiques respectueuses de l'environnement. Juste le mot, le programme que nous avons. Alors, vous avez vu, je vous ai mis des morceaux du programme, de choses qu'on avait vues, des programmes. Le programme que nous avons développé, qu'on continue de développer donc dans l'Hérault, est parti de l'idée que dans la coopération, les coopérations au niveau des techniciens agricoles se faisaient déjà par les structures d'État. L'INRA, le CIRAD, enfin, pour ceux qui concernent la France. Hein. Donc, on a dit qu'il faudrait travailler davantage sur la transmission des savoir-faire paysans entre la France et Cuba. Un peu leur programme de campesino à campesino. Donc on a organisé deux missions, une de Québec qui sont venus dans l'Hérault, qui ont vu, on leur a monté des tas de trucs, et ils nous ont dit, voilà, nous, ce qui nous intéresserait de développer chez nous, c'est ça. On a été à Cuba, pareil, on a fait une mission, et les agriculteurs français ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, à partir de là, on a défini les priorités, on les a mis en route, on a créé en 2014 un prototype de reproduction d'insectes auxiliaires dans une ferme, avec les moyens simples des Cubains, une boîte en carton, voilà, ça marche. Et ce programme-là intéresse tellement les agriculteurs de l'Hérault que nous sommes en train de c'est dans les rails pour l'augmenter sur 20 agriculteurs dans l'Hérault avec la participation de Louise Vasquez. Donc, on a bénéficier de l'aide d'un docteur en agroécologie. Et nous sommes allés par la suite, donc en 2015, à Cuba, développer un programme sur la certification participative du produit. Pas la certification par des organismes tiers, hein, la certification participative. Voilà. J'ai été trop bavard, je m'excuse.
Bon, merci beaucoup, Henri Sira, pour ces... pour tous ces exemples concrets et ces nouvelles qu'il nous a apportées de Cuba directement. Donc, maintenant, on va peut-être passer au débat. On a amplement le temps. Là, il nous reste 1h10. Alors, la parole est à la salle. On va faire peut-être passer un micro. Qui est, il est où ? Ah, là-bas, voilà. C'est Thierry qui a le micro. Donc, il y a des mains qui se lèvent déjà. Là-bas, qui a des questions à poser devant ? Alors, au fond, hein, là-bas.
Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question, monsieur de l'INRA, là, s'il vous plaît. Vous, à l'INRA, est-ce que vous avez des, dans n'importe quel centre de l'INRA en France, des études abouties sur le problème des produits génétiquement modifiés? Est-ce que vous avez pris des études qui aboutissent au fait que ça ne soit pas dangereux pour la santé de l'homme?
On va peut-être grouper avec une autre question concernant Jean-Louis Durand. Si y en a un autre qui a une question précise à lui poser.
Moi, c'était plutôt par rapport à Cuba. En fin de compte, parce que je suis spécialiste sur le cacao et chercheur, l'agroécologie a été amenée à Cuba par des Français qui ont été chassés d'Haïti. Quand il y a eu l'esclavage a été aboli, ils se sont libérés et ils sont arrivés à Cuba. Et ces agriculteurs français ont lancé l'agroécologie. Et ensuite, ont été chassés en Louisiane. Mais là, j'ai des écrits, des traces comme quoi l'agroécologie, au milieu du 19e siècle, c'est les Français qui avaient amené en venant de Haïti. Il y avait une grosse colonisation de Français. Et j'ai cru comprendre qu'il manquait de matière grasse, je crois, au Cuba, au niveau de leur nutrition. Il manquait. J'ai pas fait attention à un moment donné. J'ai cru qu'ils ont beaucoup de légumes, tout ça, mais il manque au niveau de l'alimentation. Il y aura un déséquilibre au niveau des matières grasses, je crois, non ? Ce que vous avez dit à un moment ?
Non.
Ah, j'ai cru, excusez-moi.
Bon, est-ce qu'on demande d'autres questions ? On répond tout de suite ? Oui. Alors, on va répondre tout de suite.
Alors, il y a des études sur Toulouse. Il y a une unité de recherche en toxicologie, qui s'est intéressée actuellement, à ma connaissance, il n'y a rien de très flagrant. Le truc qui est sûr, c'est que quand on a des plantes résistantes aux herbicides, aux GM ou pas d'ailleurs, ça incite à utiliser les herbicides, sinon on ne s'en tente. Et quand on utilise beaucoup d'herbicides, il y a plus de résidus d'herbicides dans les produits. Et il y a, vous avez entendu, comme moi, la radio, les choses sont à peu près avérées qu'il y a des risques à l'ingestion d'herbicides en trop forte dose. On ne sait pas trop combien, on ne sait pas trop si. Une chose qu'on sait, c'est que le système est fait pour qu'on ne sache pas. C'est la conclusion d'une commission de l'ANSES qui a travaillé sur l'exposition des agriculteurs aux herbicides et aux pesticides en général. Et ça, c'était pour savoir si oui ou non il y avait eu des épidémiologies, on pouvait conclure. Et en réalité, ils ont quand même été obligés de conclure que ce n'était pas franc. Mais une chose dont ils se sont aperçus et qu'ils ont parfaitement documenté dans les 1000 pages du rapport, c'est qu'il y a une organisation sociale de l'ignorance sur ce thème-là. Organisation qui est un tout petit peu inquiétante parce que ça mobilise les industries chimiques, mais aussi
des règlements d'État, et y compris quand ils s'appliquent dans la prévention et c'est la prévention. Concernant les OGM proprement dit, la plante OGM, non, c'est carne plat. Il y a eu un barreau fantastique avec une manip d'un labo de camp, avec le gros battage dans le Nouvel Obs, etc. Ça vient pas de nous, quoi. Ça, je veux dire, quand on regarde les manips, comment ça a été fait, les stats, c'est pas indigne, parce que il n'y avait pas de quoi non plus faire un procès, scandale, escroquerie, etc., comme les industries en face ont fait hein, quand ils ont vu des papiers. Il n'y a pas de quoi s'énerver, parce que des papiers qui sont contestables, il y en a tous les jours, y compris dans Nature, y compris dans l'autre sens d'ailleurs, c'est un papier qui promeut l'agriculture biologique sur des bases strictement idéologiques et très peu scientifiques, il y en a aussi, mais c'est pas vrai qu'il y a un scandale. Mais ça veut dire en gros que vaut mieux. C'est pas trop le sujet. Le sujet des OGM n'est pas tellement là. Alors il y a des recherches quand même sur la physiologie comparée d'animaux qui mangent ou pas des OGM pour le moment. Bon, c'est pas de là que le problème, c'est un problème de propriété sur, et de droit de ressemer ou pas. C'est l'insécurité juridique généralisée à la culture des OGM. Parce que quand dans une commune il y a 10 000 hectares en OGM et puis il y a un gars qui va en faire 100 hectares sans OGM, il est très mal barré pour prouver qu'il n'y en a pas chez lui. Et tant que c'est ça, je pense que c'est la difficulté. Et la difficulté fondamentale, c'est, ça procède de la prétention de ceux qui ont produit des OGM au départ, à savoir des grandes sociétés, d'ailleurs initialement pharmaceutiques, qui ont prétendu cette chose assez folle, c'est qu'ils allaient faire une graine miracle qui allait tout changer, tout révolutionner, mais son produit était comme les autres. Et le produit, c'est la graine. Donc on disait blanc et noir dans la même phrase. Donc ça a produit une espèce de cacophonie à la fois anti-scientifique et puis donc des conditions de vente et d'exploitation de ces semences qui les rendent extrêmement compliquées et difficiles. Si à ça on ajoute que pour le moment, sur les problèmes dont je parlais au début, de satisfaction des besoins alimentaires, pas essentiellement changé grand chose, puisque sur les rendements, la qualité des produits, leur contenu nutritif, leur intégration dans une agroécologie bien comprise, la diversité, on n'y arrive pas. La théorie biologique n'est pas au point. Peut-être un jour on saura, mais pour le moment, c'est pas ça. Donc, voilà, je pense qu'il y a des problèmes. Il y a Gandigne, il y avait il y avait une idée intéressante, c'était de remplacer l'usage d'insecticides assez dangereux par une plante résistante à l'insecte, mais ça n'a pas marché. C'est au mieux prometteur pour le moment, et puis surtout, ça cause des problèmes économiques. Alors l'INRA ne travaille plus sur les variétés transgéniques actuellement, mais travaille sur la transgenèse beaucoup pour comprendre comment fonctionnent les gènes. C'est difficile de faire autrement. Mais alors, bon, il y a un autre truc qui est un peu plus technique, je ne vais pas m'étendre, mais quand je parlais de brevetabilité, par exemple, ça tourne autour des OGM, sauf que plusieurs façons de concevoir les OGM. Il y a une définition tout à fait claire, biologique, technique. Et puis il y a une définition juridique, c'est-à-dire que parmi tous les OGM possibles, il y en a qui doivent faire l'objet d'études avant mise sur le marché. C'est cela finalement qu'on appelle OGM et on dit les autres s'en est pas. Et quand on dit les autres s'en est pas, c'est-à-dire ceux qui sont tenus par mutagénèse artificielle, on dit c'est pas des OGM. En fait, si. Il n'y a pas de différence technique, biologique, entre les deux. Sauf qu'actuellement, c'est utilisé pour mettre sur le marché, en dehors des processus de régulation, par exemple la vérification d'innocuité, mais d'autres processus de vérification, des plantes modifiées génétiquement pour échapper à la régulation. On va dire, on ne sait pas les OGM. Donc, il y a un gros débat actuellement
Tout ça, c'est pour mettre à l'abri et pour pouvoir breveter des plantes qui ne devraient absolument pas l'être. C'est un débat hyper chaud, y compris dans le Nord. Encore une fois, ça, franchement, ça me paraît le problème fondamental de la question des transgéniques. Sans préjudice du fait qu'au cas par cas, vous avez raison de soulever, il faut vérifier qu'une nouvelle plante ne présente pas de risque. Okay. Pour le moment, c'est regarder, évaluer, surveiller. Et bon, pour le moment, c'est pas clair qu'il y en ait vraiment. Mais pour la santé, je parle. Donc, il faut le faire aussi. Mais ce n'est pas le principal problème de cette filière.
Une petite information supplémentaire. Finalement, on n'a pas jusqu'à 11h, mais jusqu'à 11h moins le quart. Hein, donc, il nous reste trois quarts d'heure encore. Alors, la question sur le cacao, maintenant.
Oui, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de cacao et je n'ai pas vu du cacao à Cuba. Mais par contre, sur ce qui concerne Haïti et les Français, là, quand même, je connais un certain nombre de choses et j'ai vu d'autres choses, puisque j'ai eu la chance d'aller à Santiago de Cuba et d'aller voir dans la montagne ce qui s'était passé avec les fermes qu'on appelle les cafetales, les fermes françaises. En fait, les bourgeois français sont partis de Haïti chassés par Toussaint Louverture. Ils ont emporté avec eux leurs esclaves et des plants de caféiers et des plants, je crois, de cacao. Et ils ont réimplanté leur grande propriété qu'ils avaient en Haïti. Ils ont refait le même modèle, pas tout à fait le même modèle. Ils ont refait le modèle à Cuba, mais avec des esclaves. Mais cette fois-ci, fort de l'expérience qu'ils avaient, ils ont fait attention que les cafétales, les propriétés, soient distantes les unes des autres, de manière à ce qu'il n'y ait pas, excusez-moi l'expression, de contamination, en prévoyant des chemins de circulation pour aller quand même faire la fête d'un cafétales à l'autre, mais les esclaves, c'était toujours les esclaves. Donc, il ne faut pas croire que les Français, quand ils sont arrivés à Cuba, ils ont... Non, c'est bien les esclaves, avec les traitements d'esclaves. La seule liberté, semble-t-il, qu'ils auraient donnée à ce moment-là, toujours en fonction de l'expérience qu'ils avaient vécue, c'est de leur donner quelques petits lopins de terre pour... leur subsistance après le travail dans les cafétales. Après agroécologie ou pas. À cette époque-là, il n'y avait pas de produits chimiques. Il n'y avait pas d'intrants. Et les caféiers, pour les avoir vus, ils vivent et ils poussent sous les arbres. Ils poussent en montagne. Le meilleur café qu'on puisse obtenir, c'est le café qui pousse au-dessus de 800 mètres d'altitude. Donc, quand vous allez dans ces parties-là, vous vous trouvez confronté, comme je l'étais, à une jungle avec des caféiers à peu près de partout qui poussent naturellement et qui sont d'ailleurs toujours cultivés. Ce sont les anciens caféiers de ces capitales. Le cacao, je ne peux pas en parler, je m'en excuse, je sais qu'il y a des cacao. J'ai pas eu l'occasion de voir. Alors. Voilà, c'était par rapport à cette situation, parce que souvent on pense que les Français, âme cheval, reste, n'avaient pas continué. Non, pas du tout.
Bon, on va passer à une autre question. Oui.
Oui, j'avais une question à Monsieur Sierra. C'est vous nous avez parlé de par exemple, est-ce que vous avez une idée de la proportion de la population qui est agricole et la population non agricole, quoi, parce que la norme mondiale FMI, c'est du genre 10% l'agriculture. Qu'est-ce qu'il en est pour Cuba? Est-ce que vous avez une idée à peu près des chiffres, population agricole, population non agricole? Parce que nous, dans nos pays, en Occident, c'est 10%. Quoi. On ne veut pas plus de 10% de paysans. Et l'autre question, excusez-moi, je vous la pose en même temps, c'est une petite sous-question, c'est parce que vous avez parlé de plusieurs formes de propriété, dont une propriété donc, d'État avec usufruit. Est-ce que vous avez une idée aussi là de la proportion entre cette propriété d'État usufruit et le reste qui est propriété privée, mais alors héritage là, ou vraie propriété privée? Plusieurs formes de... Vous avez une idée des chiffres?
J'ai fait l'impasse sur les statistiques, parce qu'elles sont assez... là, il faut les recouper, et ainsi de suite. J'en ai, je peux vous en envoyer. Hein. J'ai fait l'impasse dessus. Voilà, donc je ne peux pas vous donner de chiffres sur la proportion entre agriculteurs ou la population active. Voilà. En ce qui concerne, par contre, je ne peux pas vous donner de chiffres plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que la première forme d'organisation de coopératives que j'avais eu à Cuba, ça a d'abord été les UBBC, c'est-à-dire les coopératives d'État. Il n'y avait que celle-là au départ, hein. Après il y a eu les CPA et après il y a eu les CCS. Aujourd'hui, si on regarde les superficies des UBBC sont plus importantes, mais c'est normal, puisque de là il y a la canne à sucre. D'accord ? Dans les fermes d'État, je vous ai dit, il y a deux formes. Celles qui sont canne à sucre et celles qui ne sont pas canne à sucre. Les canne à sucre, c'est les UBPC. Donc les superficies, c'est là qu'elles sont les plus grandes. Mais si on regarde en termes de production aujourd'hui, ce sont les coopératives, les crédits, les services, les CCS, qui ont la plus grande production actuelle. Global, mais en plus, c'est difficile de parler globalement parce qu'il y a, une telle diversité dans la production. Si on regarde le riz, si on regarde le maïs, si on regarde l'haricot, si on regarde les tubercules, donc voilà. Hein, mais en gros, aujourd'hui, il y a plus de CCS, de coopératives, de crédit pour des services, que BPC. Alors ça marche comment? C'est intéressant de le savoir. Ce sont tous des sociétaires de la coopérative. C'est-à-dire qu'ils élisent un président, un secrétaire, un bureau, et ainsi de suite, conseil d'administration qui se réunit deux fois ou des fois trois fois par an pour décider les orientations de la CCS. Et en plus, pour faire vivre les frais administratifs de la CCS, ils mettent en commun un certain nombre de terres, donc quelques parcelles, donc, mais ça, c'est eux qui le décident entre eux. Hein, et ils travaillent à cette terre ensemble, au moment où il faut. Et la vente de la production de cette terre, elle est pour faire fonctionner la CCS. Voilà, donc c'est une forme coopérative. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à... La terre. Ah oui, vous avez raison. Alors, il faut savoir quand même qu'à Cuba, la terre est à Cuba. Elle n'est pas au propriétaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il... Alors, pourquoi ils ont fait cette loi? Pour éviter la concentration de propriété. L'accumulation de propriété. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des terres qui sont en usufruit. C'est-à-dire, elles sont propriétés de l'État et l'agriculteur en a l'usufruit. Quand il meurt, quand il décède ou quand il arrive à son activité, la terre, ben, c'est la terre de l'État. Il y a des propriétaires de la terre. Alors, ils ne sont pas propriétaires au même sens que nous. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de la terre. Aujourd'hui, ils peuvent transmettre leurs biens à condition que l'héritier continue l'activité agricole pour laquelle a été octroyée cette terre. Vous voyez ? Donc, enregistrer cadastre, registre agricole, enfin, bon, sur les terres, tout ça, il y a les papiers et tout. Hein. Mais sur l'héritage, si la terre est agricole, il faut que l'héritier continue l'agriculture. S'il ne continue pas l'agriculture, l'État reprend la terre. Et voilà. Donc, en gros, ça, en gros, hein, voilà. Après, il y a encore quelques variantes. En gros, ça marche comme ça. C'est comme on croit qu'à Cuba, les gens ne sont pas propriétaires de leur maison. C'est faux. Ils sont propriétaires de leur maison. Ils n'ont pas le droit d'en avoir deux. D'accord ? Et ils ont le droit de changer de maison. Donc, ils font ce qu'ils appellent des permutations, qui sont enregistrées de l'acte de notarié, et ainsi de suite. Voilà. Et cette maison, elle peut être transmise à un membre de la famille, mais à condition que le membre de la famille n'en ait pas deux. Mais c'est un petit peu plus compliqué que chez moi. Mais c'est pas les mêmes règles.
Quand il a sa frère. Quand il a sa frère.
Cuba, le gouvernement de Cuba vient de sortir un document au niveau du gouvernement donc pour la rénovation de l'organisation économique et sociale du pays. C'est un document important où ces questions de propriété sont évidemment centrales. Sur la propriété en tant que telle, voilà, chacun a son idée sur la question, mais elle est importante. Je disais en parallèle d'ailleurs qu'on revient de l'île de la Réunion, pour ceux qui connaissent, tout le cirque de Mafate, pour ceux qui y sont allés, les petits villages, avec la production agricole, les moustiques, les refuges, toute la terre de Mafate appartient à l'ONF. Donc les gens qui habitent là-bas, on dit que, voilà, que celui qui est propriétaire du sol et des biens, c'est pas tout à fait comme ça. On est en France, quand même, à la Réunion. Et ceux qui donc, veulent agrandir, modifier le refuge, etc., eh bien, ils doivent demander à l'ONF qui régule l'organisation du territoire de Mafate pour éviter, évidemment, aussi la concentration et éventuellement un saccage du paysage. Parce que vous savez, dans le ciel de Mafate, il y a des sites très bien lieux. Certaines des fois, il faut un peu de courage, de la banquette, un sac à dos de bonnes chaussures pour aller les voir. La solution simple, c'est d'implanter un big hôtel pas très loin avec un héliport et puis on amène effectivement des flots de touristes. Économiquement, ça peut être rentable. C'est pas ce qui est prévu à Mafate. Vous voyez, cette question de propriété, elle est importante et je vous lis simplement les questions que le gouvernement cubain se pose et pose en consultation à l'ensemble de la population. En ce qui concerne la propriété des moyens de production. Reconnaissance de la forme de propriété liée à l'investissement direct étranger, source de développement économique et social. Reconnaissance du rôle complémentaire de la propriété privée pour certains types de production. Reconnaissance de gestion de moyens de l'État par des acteurs du secteur privé. La concentration de la propriété de la richesse par des personnes morales ou physiques du secteur non étatique n'est pas permise. Quatre formes de propriété sont reconnues. La propriété socialiste, dont les coopératives. La propriété mixte entreprise étrangère en association avec une entreprise socialiste cubaine, autorisée pour une période déterminée. La propriété privée, personne physique ou morale, cubaine ou étrangère, dans certaines activités, autorisées au cas par cas pour les entreprises étrangères et uniquement pour les petites et moyennes entreprises, pour les personnes cubaines et la propriété d'organisations associatives. Vous voyez que la question de la propriété, c'est pas « je possède, je ne possède pas ». Elle est beaucoup plus vaste, c'est qu'un aperçu. Mais il me semble que cette question, nous aussi, on peut se la poser. On peut aussi se la poser, hein. Comme j'ai travaillé dans le secteur agricole, enfin plutôt du côté de ceux qui financent, enfin qui exploitent, ça dépend comment on entend, le monde agricole, la question foncière a toujours été au centre des préoccupations, des contradictions du monde agricole. Et encore aujourd'hui, il y a une spéculation éhontée, honteuse, au détriment, finalement, de la qualité des sols et de la production. Un jeune aujourd'hui qui voudrait s'installer, s'il doit acheter le foncier, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est pas possible financièrement. Donc, c'est des transmissions qui se font le fait de père qui a déjà une petite ferme sur 50 hectares, qui a transmis à son fils, qui va l'agrandir, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que cette question, elle est centrale dans la question qu'on vient d'aborder. Voilà, donc je sais que ce document de conceptualisation là, du modèle économique et social de Cuba va être adopté. Il est en débat, il va être adopté prochainement. En préparation, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de la nouvelle équipe dirigeante qui va arriver en 2018. Donc voilà, une vraie question qui dépasse largement le cadre de Cuba.
Excusez-moi. Oui. On peut peut-être poser votre question directement, non?
Sont posées, y compris l'intervention du privé. Mais, si vous avez bien, enfin, on pourra vous donner le document, on peut le trouver sur Internet, Cuba entend garder un petit peu la maîtrise du développement. On n'empêche pas l'initiative privée, mais il y a une planification, il faut le dire, il y a une planification du développement économique et social. Comme on a connu pendant un temps, nous aussi, en France, une planification.
Oui, donc, une question suivante.
Oui, mais j'ai une question qui concerne l'évolution de l'agroécologie en France. À partir de ce qui a été dit, on a bien compris qu'à Cuba, le système agricole et les agriculteurs ont opté pour l'agroécologie, non par choix, mais par nécessité. Non, ça c'était très bien illustré. Et en France, Jean-Louis, dans ta présentation introductive, tu as évoqué qu'une partie des agriculteurs qui sont dans le système traditionnel de production agricole en France aimeraient bien évoluer, aimeraient bien changer, évoluer pour l'agroécologie, mais qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a un certain nombre de freins. Et j'aimerais bien que de ton point de vue, tu nous en dises un peu davantage sur quels sont les freins et quelles seraient les solutions pour y remédier en même temps. Merci.
Papier engagé dans la grande revue Nature Plants, plusieurs sous Nature Plants. C'est pas la plus prestigieuse, non. Et justement, ils faisaient un panorama sur l'agriculture biologique pour le 21e siècle. Vous savez que, parenthèse avant, le rapporteur de la FAO à l'alimentation de Schutter, il y a 10-15 ans, que la lecture biologique pouvait nourrir le monde. Bon, il a tiré cette conclusion d'une conférence à Durban après le décide qui avait convoqué l'ensemble du, on va dire, vraiment des représentants, une très large représentation du monde académique, agronomique, associatif, de toute ambiance. Ça s'est terminé que les agronomes, les agronomes qui avaient l'habitude de faire des maths, de la physique et de la chimie se sont barrés parce qu'ils en avaient marre d'entendre n'importe quoi sur les transmutations des éléments et d'autres trucs comme ça. Donc ils se sont considérés que ce n'était plus leur affaire. Et à la fin de la conférence, il a pu effectivement être dit que le bio pouvait nuire le monde. Donc ça s'est passé dans une confusion assez grave pour le sujet, qui mérite mieux quand même. Alors, nourrir le monde, alors il y avait déjà un premier, c'est que de combien chaque habitant a besoin. Et ça varie du simple au double, selon qu'on considère simplement le besoin énergétique individuel, ou alors qu'on lui associe les besoins supplémentaires en production pour compenser des pertes, des productions animales, des productions de la chair, etc. Et là, on arrive à des quantités beaucoup plus considérables, à peu près le double. Déjà, il faut entendre ça, parce que si on parle de l'alimentation humaine, qu'on prend au sérieux et qu'on prend un système, et que l'humanité, c'est un système biologique,
donc qui gaspille. Si on prétend que l'humanité va vivre sans gaspiller, on envoie les gens dans le mur, parce que vivre à zéro, à stock, à flux tendu l'alimentation, c'est hyper dangereux quand même, sur une planète comme la Terre, avec le climat qu'on a. Donc il faut prendre en compte tout ça, et finalement, on arrive à des débats relativement importants, fixer les idées en l'ordre, de l'ordre de l'équivalent, hein, on ne va pas manger ça, mais l'équivalent de 500 kg de céréales par habitant par an. Bon. Alors ça, on peut calculer le nombre d'hectares qu'il faut, selon le rendement qu'on fait. Alors c'est des chiffres qui valent ce qu'ils valent, mais ils n'ont pas d'importance, ils n'ont pas d'intérêt localement, parce qu'il y a des endroits on peut faire ça 10 fois, et d'autres, on va faire ça seulement 10% de ça. Mais en attendant, il faut quand même avoir ça en tête. Donc il y a quand même ce petit problème que l'agroécologie... Je dis ça parce que pour le moment, à ma connaissance, on ne sait pas répondre à toutes les contraintes qu'on voit se pointer, qui se pointent déjà en termes de besoins alimentaires, respect de l'environnement, dont le climat et la biodiversité, et respect des personnes qui travaillent et qui ont besoin aussi d'un peu de vacances, de culture, etc. C'est bien beau, il y avait des esclaves, c'est pas mal. On ne leur demande pas s'ils veulent aller au Cinoche ou partir en vacances de temps en temps. C'est pas grave. Si on veut que tout le monde fasse ça, voilà. Donc il y a des contraintes. Et dans ce jeu de contraintes, il y en a pas mal qui bloquent. Et puis on voit des pays, finalement, et on voit des choses étranges, c'est qu'il y a des choses qui bloquent à un endroit, et puis à côté, pas loin, dans des situations presque semblables, tiens, ça marche quand même. Alors. Et moi, tout ce que je dirais, c'est que je ne sais pas tout, mais par exemple... Bon, quand je dis qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui se posent des questions en France, par exemple dans la région, plaine de Neuville ou plaine de Niort, il y a des agriculteurs qui sont conscients que si on est passé de 10 mg de nitrate par litre d'eau dans la sève niortaise à 55 ou 45 en moyenne et de temps en temps 60, c'est parce que l'agriculture a produit du lessivage de nitrate. Ils le savent, ça ne les amuse pas. Ils ne l'ont pas fait exprès. Il y a eu une phase pendant laquelle il y a eu une négation de ça, comme je disais, depuis les années 70 qu'on enregistre, on le sait. On fait les bilans, les calculs. Il faut savoir quand même que la méthode de calcul des doses azotées, elle se bourrait de 10 à 15% pendant 20 ans. Et que ça explique une partie du problème, mais une partie seulement. Alors il y a une phase de négation de ça, c'est terminé je pense. Maintenant il y a des agriculteurs qui disent non mais c'est pas grave, les nitrates c'est pas mauvais pour la santé. C'est pas complètement fou, mais on se dit bien que les nitrates c'est jamais qu'un proxy de toute une série de substances très soupçonnées d'avoir une action sur la santé, bref. Alors, ceux qui sont conscients, qui sont nombreux et qui n'y arrivent pas, c'est souvent qu'ils... En général, ils ont des dettes. C'est la faute de gars comme ça. Qui leur prêtaient de l'argent pour investir très lourdement sur 20, 30 ans avec une armée et puis un système qui favorise l'investissement. Aujourd'hui, massivement, sur les semaines céréalières, la structure des prix et des soutiens des prix... ont amené à des investissements très importants pour maximiser les rendements. Surtout que la petite musique qui dit « on va être très nombreux, on aura des problèmes pour se nourrir », c'est très utilisé par ce système pour pousser à l'augmentation des rendements, etc. etc. Je suis conscient hein, quand je dis « il y a un problème ». Ce n'est pas parce qu'il y a un vrai problème, il n'y en a pas qu'il y a des petits malins qui s'en servent pour leur business. J'ai entendu une histoire assez hallucinante d'un cas d'une grande compagnie de semences internationale qui expliquait que quand il y avait des nouvelles de fin dans le monde, les commerciaux de la boîte qui commençaient à calculer leur prime de fin d'année à la hausse. La simple lecture des notes de la fin dans un coin. Donc, la spéculation internationale, ça crée un système de prix, de soutien au prix, qui amène à des investissements, qui coincent les agriculteurs. Parce que coincer les gens avec la dette, c'est encore ce qu'on a inventé de mieux pour coincer les gens. Tu dois pas dire comme ça. Un professionnel. Et c'est un mécanisme terrible. Ça marche pour les États. Vous avez vu ce qui se passe avec la... Et ça marche pour les individus. Spécialement les agriculteurs. Et quand on commence à bosser pour rembourser l'emprunt chaque année, on ne fait plus. C'est très difficile de faire l'agroécologie dans ces conditions. Parce que la plupart du retour sur investissement, entre guillemets, du coup, autant figurer, en agroécologie, ça se fait sur plusieurs années. C'est des rotations complexes. Ça peut être des rotations sur 6, 7, 8, 10 ans. C'est-à-dire, pendant chaque année, une culture différente pendant 10 ans. C'est très complexe à l'échelle d'une exploitation entière pour gérer les dates de semis. Enfin, vous voyez, le calendrier de travail devient beaucoup plus complexe. Et du coup, cette complexité, elle induit forcément un risque d'échec pendant la phase de transition d'une agriculture un peu standard, ou plutôt qu'on connaît bien, à une agriculture qu'on connaît moins bien, des risques d'échec importants. Moi, j'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps à côté de l'ancien président de la Chambre régionale d'agriculture, qui n'est pas un petit rigolo, Babacoul, hein, qui ne fait pas dans le milieu rural. Céréaliculteur, il est dans de Charente-Maritime. Bon. Et il a dit, moi, je suis passé, j'ai vraiment cherché à mettre des cultures intermédiaires pour pas qu'il y ait de sol nu sur ma sol entre les récoltes des céréales en été et puis les semis au printemps suivant. Et c'est un truc de chien parce qu'on n'a pas le climat ni les sols qu'il faut pour ça. En gros, ça, si on ne fait pas vraiment attention, ça rate une fois sur deux. Ce qui n'est pas très grave du point de vue réglementaire parce que la seule chose à laquelle les agriculteurs sont contraints, c'est de semer quelque chose. Ils ne sont pas obligés que ça pousse. Ils balancent n'importe quoi. Non, mais d'un autre côté, l'obligation de résultat, c'est pas possible en agriculture, hein, parce que ça dépend du temps, etc. Bon, donc lui, il essayait. Et bien, il disait, pendant 2 ans, 3 ans, je me suis cassé la figure. Bon, quelle est l'agriculture aujourd'hui qui peut, sur la moitié ou le tiers de sa sol, se tromper 3 ans de suite? Qui c'est qui peut passer de 30, 33% de son chiffre d'affaires 3 ans de suite? Même en céréaliculture. Donc ça, c'est un frein. Et on voit bien, par exemple, les hurlements que poussent les paysans bio, qui sont quand même pourtant les plus malheureux en ce moment. Mais ils râlent, parce que la transition entre le système classique et le système bio, à cause de cette complexité, c'est assez long. Et c'est une phase pendant laquelle il faut prendre des mesures de protection, parce que l'exploitation est fragile pendant ce temps-là. Eh ben, le fait que les primes ne soient pas versées à l'heure, à temps, pendant ce temps-là, c'est vrai que ça leur pose des problèmes. Objectivement, c'est pas, ils sont plus rapides que les autres. Mais voilà. Et ces choses-là, c'est bloquant aussi. Et puis, il y en a aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et je trouve que ce que disait Henri Sierra doit nous inspirer. Il n'y a jamais de perte de contact entre la recherche et les agriculteurs. Il y a toujours eu beaucoup de relations entre les chercheurs et l'agriculteur. Malgré tout, ça n'a pas toujours été dans un sens... c'est pas toujours très, très efficace. Hein, les chercheurs d'INRA, ils sont tiraillés entre les agriculteurs, les consommateurs, les industriels. Et selon le rapport de force, qui l'emporte à un moment ou à un autre. C'est pour ça que ce genre de forum est...
Je crois qu'il y a déjà des nouvelles questions en attente. On va peut-être essayer d'en grouper une ou deux.
Moi, je voulais parler du foncier rapidement parce que je pense que c'est un problème qui est complètement dépassé. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans une situation où ils ne peuvent même plus emprunter parce que le capital d'exploitation qui est nécessaire pour s'installer, il est énorme. Et comme il n'y a plus de garantie sur les prix, les banquiers vont être de plus en plus réticents à prêter de l'argent à des gens qui ont des besoins énormes et qui n'ont plus aucune garantie en matière des prix. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura encore des agriculteurs dans quelques années? Il y aura 2 agriculteurs en France, et il y en aura de plus en plus, il y en a un par commune, voire zéro, voire 1 agriculteur par 2 communes, donc il n'y a plus d'agriculture. Et il n'y a plus de paysage, et il n'y a plus de possibilités, il n'y a pas beaucoup de possibilités de revenir en arrière. À Cuba, on a parlé d'horticulture, on a parlé de jardinage, on a parlé de maraîchage, mais on n'a pas parlé de grandes cultures. Les grandes cultures, c'est ce qui fait l'essentiel du territoire français. Hein. Ce n'est pas le maraîchage.
Bon, une autre question qu'on peut grouper, peut-être. Il y en a tout un tas, là-bas.
Oui, ça va prolonger l'intervention précédente. C'est pas tellement une question, c'est une remarque. Puisque l'assistance qui est venue ce soir intéressée par l'agroécologie ou l'agrobiologie peut aussi s'interroger sur l'agriculture qu'il y a chez nous. Je vous indique que les irrigants de la Vienne, la Chambre d'agriculture et l'Union des coopératives prévoient la construction de 43 réserves d'eau que l'on appelle bassines. C'est un investissement de 80 millions d'euros. Ça représente 13 millions de mètres cubes. C'est 8 fois le barrage de Sivens. C'est en train de se mettre en place. Je vous invite à une réunion au Roche-Pré-Marie jeudi 16 mars où ce sujet sera présenté. Évidemment, quand on va dans ce sens-là, on ne va pas vers le maraîchage. On est en plein dans la grande culture et même dans la monoculture de maïs. C'est complètement à contre-courant. À nous, les citoyens consommateurs, de peser aussi sur les décisions et d'essayer d'éviter un tel gâchis financier.
Bien, merci. Merci pour l'info, Michel Girard. Alors ensuite, une autre question pour voir un peu là-bas, je crois.
Bon, j'aurais un peu deux questions. La première concerne Cuba. Je me suis demandé comment le travail se réalisait dans ces jardins. Je suppose que c'est beaucoup du travail manuel. Mais je voudrais savoir comment sont cultivées les terres dans les coopératives, par exemple, et aussi la place de l'élevage, parce que vous nous avez parlé de porcs, de chèvres, mais liés à la consommation familiale. Donc, je me demande s'il y a des vaches, s'il y a du lait quelque part, comment ça fonctionne. Alors, peut-être qu'il faut laisser la réponse se faire maintenant. Après, j'ai quelque chose à dire en ce qui concerne M. Durand, qui me préoccupe beaucoup. Je ne suis pas le seul.
Vous pouvez répéter ce que vous avez demandé à M. Durand là-dessous. Sur les terres.
Sur les terres de Cuba.
Les terres de Cuba.
De quelle manière les terres sont cultivées, avec quels moyens mécaniques, animaux ou humains. Et la place de l'élevage.
Voilà, avec l'élevage.
Comment fonctionne la polyculture.
Ok.
Bon, alors. Bah, d'abord, oui, Henri.
Oui, c'est là. Donc d'abord, on parle souvent de maraîchage et ainsi de suite. Je tiens à préciser qu'à Cuba, c'est pas que le maraîchage, c'est la polyculture. On a vu des fermes où il y avait du maraîchage, c'est-à-dire salade, tomate, concombre, poivron, tout ce que vous connaissez, du riz. Même agriculteur, du riz, des haricots noirs, des tubercules, des arbres fruitiers, des poulets, cochons. Vous voyez, c'est cette notion de polyculture. Ça va au-delà du maraîchage. Voilà, ensuite, comment est le travail à Cuba? Alors, le travail à Cuba. D'abord, la main-d'œuvre n'est pas aussi chère que chez nous. Et donc, en fait, la main-d'œuvre ne manque pas. Donc, dans toutes les petits, tout ce que vous allez avoir, les petits jardins, les patchs, c'est-à-dire toutes les petites unités à ville, le travail va être que manuel. Que manuel, avec des outils, je le dis tout à l'heure, souvent qui sont inventés parce que le Cubain est très inventif. C'est, je ne sais pas comment ils font. Voilà, par quoi ils sont nourris. Ils inventent des outils ou des systèmes d'irrigation, des systèmes qui leur facilitent la vie. Je vous donne un exemple. J'ai vu production de lombric, de lombriculture. Donc, cet agriculteur avait des lapins.
Il avait, c'est la peine d'un décage, comme nous, hein. Et ces cages, il les avait mis en hauteur, et dessous, il avait mis des plates-bandes dans lesquelles il faisait de la lombriculture. C'est-à-dire qu'il amenait dans ces plates-bandes des déchets de végétaux, et les excréments de lapin tombaient sur le déchet végétaux, donc tout seul, sans rien faire. Il avait mis ses vers. Quand c'était prêt, hop, il obtient un mélange absolument incroyable. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses comme ça aussi. Hein, mais quand je vous le dis, il avait 20 cages de lapin, quoi. Hein, c'est pas. Voilà. Donc le travail est essentiellement à la main. Ceci étant dit, il y a du travail mécanisé, bien souvent. Avec de la traction animale. Donc vous allez retrouver dans des fermes qui sont un peu plus grandes. Donc traction animale par les bœufs ou par les ânes, il n'y en a pas beaucoup, par les chevaux, mais c'est surtout essentiellement des bœufs. Ils utilisent essentiellement des bœufs. Les moyens de transport des fermes sont essentiellement à cheval, y compris sur les charrettes. Les fermes qui sont un peu plus grandes, les CCS qui sont un peu plus grandes, peuvent avoir un tracteur ou deux tracteurs. Ça peut arriver. Bon, voilà. Donc, en général, c'est toujours des moyens mécaniques faibles, pas comme ceux que nous, on peut imaginer. Mais en même temps, les agriculteurs cubains expliquent qu'ils préfèrent travailler avec la traction animale parce que ça détruit moins leur sol. Et comme les surfaces sont moins grandes que nous, et y compris qu'ils ne sont pas en monoculture, donc ils travaillent, ils vont travailler une parcelle qui va être plantée avec des cacahuètes, je ne sais pas, et après il va faire une rotation sur la parcelle d'à côté, il aura mis des haricots ou des haricots noirs ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, le travail n'est pas sur il n'y a pas 3 km de rangée à tirer, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut le repositionner dans l'organisation des fermes telles qu'elles sont. J'en profite pour juste deux mots dire qu'il y a une observation qui nous a été faite par le docteur en agroécologie, Luis Vasquez, qui est, et peut-être que tu pourras donner un complément là-dessus, qui est très inquiet par rapport à l'évolution du climat. L'évolution climatique. Cuba est touchée aussi par l'évolution climatique avec des sécheresses, en dehors des périodes d'ouragan qui détruit les plantations. Hein. Et donc Luis Vasquez nous dit, je suis très inquiet parce que le réchauffement de la planète est de plus en plus important. Et lui dit, d'ici 10 ans, il va y avoir des transformations incroyables. Il y a des cultures qui ne vont plus pouvoir être faites là où elles sont faites. Et la seule manière pour les agriculteurs, ça sera de revenir sur, non pas de la monoculture, et abandonner la monoculture pour passer en polyculture, parce que ça leur sera le seul moyen qui leur permette de malgré tout assurer une activité agricole avec des revenus. C'est-à-dire adapté en fonction des cultures qui sont. Voilà. Donc, je vous livre ça parce que ça, voilà, il y a des débats qui ont eu lieu. Je t'ai envoyé un paquet de tableaux.
Est-ce qu'il y a d'autres.
La prise. Alors, le changement climatique, il a commencé. On a perdu le bilan hydrique de la région. Oui, il pleut 800 mm par an à peu près. Et il partait 650 mm il y a les années 50. Il en part 800 aujourd'hui. En été. La chaleur, l'augmentation de la température, c'est pas tellement qu'il pleut moins, parce que les pluies, ça reste quand même relativement constant pour le moment. C'est que l'évolution de température a fait que la consommation d'eau des surfaces végétales. Entre parenthèses, que ce soit de la polyculture, du bio, de la forêt, n'importe quoi, la consommation en eau, c'est la même. Et d'ailleurs, entre parenthèses,
plus le sol est couvert de végétation, plus il y a de consommation d'eau. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est une des solutions. Enfin, faut des feuilles au soleil tout le temps pour éviter, pour maximiser le rendement solaire, mais ça consomme de l'eau tout le temps. 100 mm de plus si on veut couvrir les plantes, les sols en hiver. Ça. Donc c'est sérieux et effectivement les perspectives sont assez sombres. Il y avait un grand colloque international à l'UNESCO l'année dernière, il y a deux ans, en juillet 2015, qui a fait le bilan, qui préparait, enfin qui consolidait un peu les prévisions de la COP21. C'est vrai que c'est pas super bien parti. Alors, en même temps, ça fait deux ans que les émissions de carbone, de CO2, enfin, de gaz, ont baissé. Mais comme on sait que c'est lié à la crise économique et au ralentissement de la croissance en Chine, en Inde, au Brésil, bon, c'est pas complètement rassurant non plus, parce que probablement ça risque de redémarrer. Donc, c'est vrai que c'est pris au sérieux. Mais c'est à l'échéance de 20-30 ans. De toute façon, ça n'empêche pas que ça se trouve pendant 3-4 ans, il y aura des années pourries à Cuba, enfin, ça se met à flotter. Il y a des cycles. Et le changement climatique dont on parle, c'est une tendance qui n'est pas si facile que ça à percevoir, encore que ça s'accélère. Donc, c'est très compliqué de faire prendre conscience au système de production agricole, c'est-à-dire les organisations, les banques, les aides. Dans la mesure où leur problème, c'est de rentabiliser l'investissement l'année prochaine. Et comme les détenteurs des capitaux, ce sont ceux qui pensent qu'ils auront toujours une île paradisiaque ailleurs, donc s'il faut qu'ils s'installent aux Aléoutiennes alors qu'avant ils étaient à Hawaï, c'est pas un problème. Enfin, s'ils sont dans le nord. Donc là, ça existe. Et c'est vrai qu'une des. On préconiserait plutôt la diversité des cultures pour résister à ça, pour. Au moins que voilà, il y a une espèce d'échantillonnage possible, il y en aura au moins une qui va passer, alors que si on est tout dans la culture, on prend des risques.
Avant de prendre une dernière question, je crois qu'il y en a au moins une là et puis peut-être d'autres encore. Je voudrais revenir sur quelqu'un qui a parlé des difficultés en France pour obtenir des emprunts pour se reconvertir justement en bio. Et il a été question aussi des dettes pour emprunter pour se reconvertir. Si on repartait de Cuba à Cuba, ils n'ont pas de dettes ni d'emprunts à faire pour se reconvertir à la bio. Qu'est-ce qu'il en est ? Brièvement, parce que je voudrais bien donner la parole.
Non, à Cuba, il n'y a pas pour le moment l'histoire de dette. Il est très difficile, enfin, c'est pas difficile. Les Cubains n'ont pas forcément de compte en banque. Voilà. Déjà, vous avez la raison sur les crédits. Hein. N'empêche qu'aujourd'hui, quand même, ils réfléchissent sur la nécessité de mettre en place des crédits pour favoriser l'investissement. Ça correspond à tout ce que fait une partie de tout. Hein, voilà. Ce sont des évolutions. Ça inquiète en même temps les Cubains. Parce que pour le moment, ils n'ont pas d'imposition, de système d'imposition. Donc, on parle en même temps de voir apparaître un système d'imposition. Voilà. Donc, je suis allé vite. Hein.
C'est bon. Alors, intervention ?
En fait, j'avais envie de. C'est pas vraiment une question. J'avais noté en fait plusieurs choses par rapport à. Par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que aujourd'hui, on n'a pas de chiffres sur la. Enfin, sur pour pouvoir se projeter demain, comment on va nourrir la planète, comment on va nourrir le monde, etc. Et en fait. J'ai l'impression que cette problématique et la question de rentabilité, comment on les évalue, enfin, qu'il fallait que ça reste au centre de la recherche, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ce nœud du chiffre, de comme quoi il faut toujours quantifier les choses, qu'il faut qu'il y ait des recherches dessus. Enfin, je comprends, ça permet d'objectiver plein de choses, etc. Mais bah, justement, il y a une dame, je crois qu'elle est de l'INRA, qui a fait une espèce de rapport sur l'agroécologie, enfin à l'occasion de la loi sur l'agroécologie et la loi d'avenir là, Et elle disait justement que le problème avec la recherche, c'est que bah, elle est financée le plus souvent par bah, des entreprises qui n'ont vraiment pas intérêt à ce que bah, le modèle tel qu'il est change. Et c'est un gros souci. Donc en fait, on attend des chiffres qui peut-être ne viendront pas pour changer de modèle. Et en fait, le truc, c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est vraiment un argument qui revient tout le temps. Donc voilà, est-ce qu'on doit attendre ces chiffres-là pour changer ? Et après, cette dame aussi, elle parle de choses sur la gestion des risques. Vous en parliez tout à l'heure, et c'est vrai que si on change de modèle, c'est pas, entre guillemets, normal que ce soit les agriculteurs qui assument le risque qu'il y a derrière le changement. Et cette dame, elle disait, justement, il y a des assurances, maintenant, il va y avoir des assurances... Les agriculteurs vont s'assurer pour le risque qu'ils prennent pour changer de modèle. Et en fait, je me dis, finalement, c'est comme le problème de la dette, quoi. On se remet aux assurances pour... Enfin, pour moi, c'est un problème, quoi. C'est pas trop logique. Et justement, enfin, c'est des solutions qui sont proposées. Il y a des réflexions dessus, mais j'ai peur que, voilà, les solutions qui sont proposées, ça soit un nouveau problème. Et juste un tout petit... Mais vraiment... Un tout petit... Juste, j'ai pas de questions, juste je voulais apporter ça en plus, puisque c'est un débat. Et du coup, en fait, j'avais un autre truc sur le foncier. Le foncier, j'ai entendu parler de la SAFER et tout ça, vite fait, derrière moi, en fait. Et la SAFER, c'est vrai que c'est une mal-aimée, mais c'est un bel outil à la base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui en est fait, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'effectivement, il y a un rapport de force dedans qui est pas forcément à l'avantage des petits. Et juste pour finir sur une note un peu plus gaie, il y a quand même des choses qui se font sur le foncier avec des assos, des choses comme ça, enfin des réflexions sur la propriété collective du foncier, ou juste des assos qui achètent le foncier pour le mettre à disposition d'agriculteurs. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, désolée, hein.
merci. Est-ce qu'on peut, prendre une question de plus, Thierry, non ?
Vous avez parlé de pays étrangers qui est possédé ou qui est exploité.
Oui, vous avez parlé d'étrangers qui possédaient ou qui exploitaient des terres à Cuba. Quels sont les pays qui arrivent et qui sont autorisés à le faire ?
Merci.
Pour le moment, il n'y a pas d'étrangers qui exploitent les terres à Cuba. La seule chose, c'est qu'il y a une question posée dans le Les propriétaires étrangers, il n'y en a pas. Pour le moment, la question sur la loi de l'investissement étranger est sortie. Et là, la question peut se poser différemment. Mais pour le moment, on ne parle pas de vendre les terres à des étrangers. On parle simplement d'investissement d'entreprise. Voilà.
J'ai parlé des moyens de production. Moyens de production. Oui.
Il y a une chose qui a été dite là, je peux préciser quand même. Bon, l'INRA, c'est fonctionnaire. Hein. Donc le privé ne finance pas l'INRA. L'auteur financement de l'INRA, c'est de parler privé directement, ça va être dans les 3-4%. Ça ne règle pas le problème que vous posez complètement. Mais c'est d'abord et avant tout bien important. Parce que si on change du système et qu'on passe à un système où c'est autrement que c'est. Alors là, du coup, on sera complètement aux ordres. Aujourd'hui, moi, je peux dire n'importe quoi. Je ne serai pas viré. Les fonctionnaires d'INRA, non seulement ils sont encouragés à venir comme ça discuter, mais c'est-à-dire ce qu'ils pensent d'après leur connaissance. Et ça, c'est super important. Parce que ça veut dire que, en principe, et je le rappelle, l'INRA, quand même, en agronomie, pour une partie de la génétique, pour une partie de la zootechnie, et plus un peu important dans ces domaines, pour une partie de l'économie, pour une partie de ces disciplines expliquent qu'il faut diversifier et il faut complexifier les systèmes. Et constate que les systèmes se simplifient tous les jours. Donc, l'INRA n'est pas en accord avec le mainstream.
forcément.
Et quant aux chiffres, moi je pense que c'est quand même assez important de savoir s'il faut, par exemple, compter 250 kg par habitant ou 500, et si il y a de quoi, avec tel système, enfin, les niveaux de rendement et les niveaux de production, les surfaces, c'est crucial. On ne peut pas se lancer comme ça, d'immenses plans, etc., il y a des choses qu'on sait et il faut se poser des questions quand même. Hein, parce que sinon, on peut engager des... Enfin, voilà, je réagis un peu là-dessus parce que le nombre, c'est une partie importante de la science. Je sais qu'il y a des mathématiciens à la salle, mais c'est important aussi. Ceci dit...
je crois qu'on va... On va être obligé de passer à la conclusion. Ce débat était vraiment très... Oui. Oui.
Pour apporter une certaine contradiction à ce qui a été dit, parce que j'ai trouvé que ça allait assez loin. Bon, une première chose que je vais faire remarquer, quand on parle des dangers des OGM, on crée une confusion en suivant qu'on voit la composition des plantes qui sont obtenues par les OGM, leur composition intrinsèque, et... ce que ça provoque avec l'emploi des pesticides. Bon, parce que les premiers plantes transgéniques, ce sont soit des plantes à pesticides avec le BT, soit des plantes pour supporter le glyphosate. Et qui parle de ces plantes dit accentuation de l'emploi des pesticides. Il faut distinguer les deux choses. Quant aux études dont on parle et qui ne sont jamais menées à bout, il y a eu une étude en Maine-et-Loire qui a été arrêté de manière catastrophique, dont on n'a plus entendu parler. Et moi, je m'adresse à M. Durand sur les conclusions qu'il apporte par rapport à l'étude menée par Serralini. Parce que de la manière dont vous l'avez dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et en tout cas, les études qui sont faites par rapport aux OGM sont faites sur des périodes de 3 mois. L'étude Serralini porte sur 2 ans, sur les rats. Il y a quand même une belle différence. Après l'étude de Serralini, il a été dit qu'il serait procédé, s'est engagé dans ce processus-là, qu'on ferait une étude avec toutes les garanties voulues sur la période de 2 ans. Ces études n'ont jamais été lancées. Voilà ce que je voulais dire au minimum. Merci.
Moi je l'ai lu en détail, le papier de Serralini, il n'est pas convaincant. Après, on peut en discuter en détail. Les écarts sont pas... Alors, pour aller dans votre sens, il y a des études qui vont dans l'autre sens, qui sont à peu près aussi, comme vous dites, 3 mois, tout ça. Mais quand on voit ce qui se passe dans la manie, dans l'animalerie, et ce qui arrive à ces pauvres bêtes, qu'elles soient traitées avec du OGM ou non OGM, tout en train de crever. Enfin, c'est fait pour, parce qu'il a repris le protocole avec les mêmes bestioles qui sont utilisées par les constructeurs. Et il n'a rien inventé, il n'a pas fait exprès. Mais de fait, il y a un problème. Et la conclusion de tout ça, vous avez entièrement raison. Le système de production qui utilise des OGM est un système généralement intensif, avec forte dose d'herbicides, comme ça. Évidemment. Et puis, même quand c'est du BT, de toute façon, si on oublie quelques insectes, donc à la fin, ça n'a pas été un effondrement d'utilisation des pesticides attendu du tout. Donc là, vous avez raison. Et du coup, et je l'ai dit, mais je le redis pour que ce soit clair, la contamination des aliments produits dans ces systèmes peut poser question. Et très probablement pose de graves questions. Par contre, la plante transgénique elle-même, pour le moment, personnellement, j'en mange. Si on les produit sans trop de pesticides, on peut en manger, mais bien sûr. Mais oui.
Bon, je crois qu'il faut peut-être maintenant arriver vraiment à la conclusion, parce que le débat pourrait se poursuivre, c'est passionnant, pendant des heures. Je voudrais quand même redire que si... on rappelle que c'est à Cuba dont on est parti. Si c'est à Cuba que s'est développée l'agriculture organique à la vitesse à laquelle ça s'est développé, avec le succès que l'on constate maintenant dans le monde entier, ben c'est tout de même, c'est pas comme en France, hein, c'est parce qu'il y a eu là-bas l'appui de toute une population inventive et soucieuse de préserver son environnement et de se nourrir, et l'aide très importante du gouvernement qui a très bien compris qu'en favorisant la production bio, il arriverait, on espère, à une autosuffisance alimentaire pour la population. Ça, c'est pas le cas en France. Hein. Donc, je rappelle aussi que pour le WWF, l'organisation bien connue, Cuba est le seul pays au monde à avoir un développement durable. Voilà. Merci pour votre attention. Bien sûr, il faut aussi lever le blocus